Voilà. Alors aujourd'hui, on va continuer la chronologie. Ça sera plus simple que la dernière fois où c'était assez complexe de revoir un petit peu tout ce qui était pré-byzantin, puis byzantin avec les querelles byzantines, etc. Là, on va se concentrer sur une période et sur une zone géographique, et ça sera plus clair au niveau justement des événements. Néanmoins, c'est une période qui est pas très connue, hein, le 7e, 8e siècle dans l'art chrétien, puisque là, on va dire que toute pratique artistique est forcément chrétienne dans cette région du monde. Et là, il s'agit de l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, on sera surtout en Irlande et dans les terres anglo-saxonnes, on va dire, et puis aussi on ira du côté de Charlemagne et de tout l'art carolingien, des manuscrits carolingiens, et on verra qu'on rejoindra incidemment l'art byzantin, et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Alors je commence avec l'un des manuscrits les plus connus, parce qu'effectivement, c'est sans doute l'un des plus riches de cette période-là. C'est le Book of Kells, alors qui a été préservé dans la ville, la petite ville, l'abbaye de Kells, mais on ne sait pas exactement où il aurait été écrit et rédigé et enluminé. On pense qu'il s'est retrouvé dans la commune de Kells pour le protéger d'invasions ou de raids de Vikings, parce qu'il aurait été rédigé, créé plus au nord, sur une partie plus littorale, notamment peut-être à Iona, hein, qui est près de l'Écosse, etc. Enfin, ça, ce sont des choses qui sont difficiles à établir. Par contre, ce qui est clair, vous le verrez, c'est qu'il s'inscrit, en fait, il est de 800, quasiment vraiment. Hein. Alors, c'est par rapport à Charlemagne et même à l'impératrice Irène à Byzance, c'est notable parce que c'est les mêmes dates. On se retrouve vraiment dans une sorte de miracle historique de toute cette période-là, et on verra avec les manuscrits asturiens, on va retrouver aussi un peu cette même conjonction de faits historiques. Et donc, il est quand même l'héritage de plusieurs dizaines d'années, voire un bon siècle, d'une culture, on va dire, irlandaise. Souvent, les désigne comme des manuscrits irlandais. Alors, avant d'aller dans le détail, on va le regarder un peu. En plus, il est parfaitement conservé. Et il est présenté à Dublin, au Trinity College. Alors, quand moi j'étais allé, quand vous allez voir un manuscrit, vous voyez que deux feuillets ouverts. Et c'est sous verre, voilà, on ne voit rien. Et pour avoir, dans les années 80, 90, même 2000, c'était très difficile. On avait, même les photos étaient rares, les photos couleurs n'étaient pas très de bonne qualité, parce que pour faire des photos avec des spécialistes, il fallait demander autorisation avec des reflets, enfin, c'était pas évident. Et donc, même la connaissance du manuscrit, on peut dire, elle est relativement récente, et à plus forte raison des autres manuscrits. Là, vous avez quelque chose avec les manuscrits qui est actuellement, en 2023, très nouveau, et c'est prodigieux, c'est que quasiment tous les manuscrits maintenant sont numérisés. Hein, que ce soit à Oxford, à Londres, à Gallica, ou même en Suisse, etc. Vous avez des trésors, mais gigantesques. Et d'ailleurs, je fais une petite introduction parce qu'on verra plusieurs fois des manuscrits. C'est un véritable monde qui s'ouvre à l'histoire de l'art, puisque c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Que quelques érudits, hein, quand on voyait Émile Malle, grand érudit du XXe siècle, connaissait déjà certains manuscrits, mais il y allait avec les gants, l'autorisation, il ouvrait trois, quatre pages, et puis c'est tout. Hein. Donc, vous avez aussi une connaissance qui est différente et qui est passionnante, et qui rebrasse, si vous voulez, la vision qu'on peut avoir de l'art dans ces périodes-là. Alors, il est très notable, vous vous souvenez de ce qu'on a vu de l'art byzantin, hein, et vous avez ici, dans ce manuscrit, qui est un évangile, hein, c'est l'évangile de Kells, et vous avez dans cette première page, et même dans cette seconde, très peu d'éléments, on va dire, figuratifs. Ce qui domine de façon très claire ici, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les motifs en tapis, qui ne sont pas sans évoquer parfois les tapis d'Orient. Et le lien est assez complexe à établir. Par contre, il y a un lien qui peut être aussi théorique. Hein, on le verra avec les tapis d'Orient, c'est le fait de s'éloigner de la figuration. Par contre, ça, c'était des pages de présentation. Là, vous avez une deuxième page où vous avez une combinaison de la planche tapis, on va dire, avec des éléments figuratifs des bestiaires, et puis le tétramorphe avec les quatre évangélistes, hein, puisqu'on reconnaît l'aigle, le taureau, le lion et l'humain, des quatre évangélistes. Alors, vous savez sans doute, ou j'y reviendrai, qu'il représente les quatre états de Jésus, hein, qui est homme quand il est sur terre, etc., qui va être animal sacrifié comme le taureau, puisqu'il va être crucifié sur la croix, qui va être lion par la résurrection, parce que le lion était un symbole de résurrection, puisque les lionceaux restaient 3 jours à peu près amortis avant une fois leur naissance, et au bout de 3 jours, ils réunissent, et ils ont cette puissance. Et il est aigle parce qu'il monte au ciel. Donc vous avez dans le tétramorphe, dans les quatre évangélistes, vous avez aussi une symbolique des états de Jésus sur terre. Donc, ce n'est pas du tout. Alors, l'autre chose qui est intéressante dans le tétramorphe et les animaux des évangélistes, c'est que ça, j'ai parlé d'Orphée la dernière fois, c'est aussi une manière d'absorber ou d'intégrer le rapport de la religion avec l'animalité et avec sans doute des croyances ancestrales autour des puissances animales. Mais bon, ça, j'y reviendrai. Alors, ils sont très stylisés. Tu vois-t-il que tous les éléments figuratifs sont comme enserrés dans une logique géométrique, graphique et extrêmement sophistiquée. Alors, la sophistication, je vais y venir parce que c'est quand même particulier, mais j'y viendrai tout à l'heure. Alors, vous avez aussi des scènes dans le Book of Kells qui représentent Jésus. Alors, ça, il s'agit de Jésus, hein, et ici, son arrestation. Donc, on est très, très loin d'une représentation, on va dire, anecdotique, avec une sorte de figuration et une narration, par exemple, sur les lieux. Il n'y a pas d'indication des lieux. Il n'y a pas non plus, on voit à peine Pierre, on ne voit pas Pierre couper l'oreille, du soldat, on ne voit pas la trahison de Judas, etc. Et, chose aussi très notable, Jésus est ici représenté de façon extrêmement claire dans une sorte de doublon. C'est à la fois l'architecture, vous avez ici une voûte, ici, et de la même avec des chapiteaux et des piles et même des assises, là, des colonnes qui soutiendraient l'arc ici. La tête de Jésus, d'ailleurs, est au centre du cercle, le cercle étant son père, étant Dieu, et lui étant dans le carré comme humain, etc. Et vous avez ici à la fois l'architecture, mais vous avez aussi ce cadre. Hein, ce cadre qui est un cadre purement géométrique et abstrait. Alors, donc, on a à la fois la géométrie, la figuration, mais l'idée que toutes les figures, elles sont contenues dans un ordre supérieur. Hein, ce n'est pas les figures qui dominent, elles sont intégrées. Comme, alors là, c'est typique de cette vision chrétienne, c'est que les humains appartiennent au monde créé par Dieu. Et c'est un monde qui est ordonné, qui est géométrique, qui n'a pas de vide aussi. Le vide n'existe pas dans la. Il va falloir attendre presque pour que le vide existe, il faut attendre le XVIIe siècle. Mais tout, même l'espace ouvert, c'est quelque chose qui est assez complexe. On ne sait pas très bien comment le traiter artistiquement. Donc, il est traité par une sorte de saturation. Alors, on l'avait dans les vitraux gothiques, on l'a ici. C'est que tous les espaces sont occupés. Et ils sont occupés, et ici, de façon très nette. Alors, je reviendrai parce que j'ai des documents de meilleure qualité, par des entrelacs. Et des figures qui sont très et notablement connotées comme étant, on dit, celtiques ou nordiques, en tout cas qui viennent de l'art des invasions, entre guillemets, ce qu'on appelle l'art des invasions. Alors, toujours dans le Book of Kells, vous avez également Marie, donc représentée. Donc, les cultes mariaux ne sont, c'est pas uniquement Notre-Dame et puis Chartres, etc. C'est quand même plus ancien, le culte à Marie. Marie, Mater, ici, avec l'enfant sur les genoux. Alors, pour revenir sur l'origine de ces cultes-là. Mais oui, à chaque fois, elle est dans une sorte de cadre qui, lui aussi, est extrêmement, on va dire, rendu dense par une multitude de figures graphiques très complexes. Alors, la densité d'une œuvre d'art, alors, par exemple, un manuscrit comme celui-ci, est absolument essentielle parce que, en Irlande, à cette période-là, il y a peu d'œuvres d'art. Il y a peu d'œuvres d'art, il y a peu d'architecture. On n'est pas du tout dans la tradition urbaine qu'il y a, par exemple, dans tout le bord de la Méditerranée. Nous sommes plutôt dans des petites communes, dans des hameaux. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur presque des villages, les abbayes sont. Et vous n'avez pas du tout le phénomène comme ça de pérennité des œuvres. Au contraire, ce sont des trésors qui sont souvent cachés, enfouis, qui sont de relative grande taille, mais qui sont presque la seule expression artistique en l'honneur de Dieu. Et il faut donc qu'ils soient extrêmement précieux. C'est pour ça qu'ils sont traités comme des bijoux, comme des châsses, hein, des châsses qui vont retenir les reliques. Et donc, ils doivent condenser le maximum de richesses possible. Déjà, le support lui-même est un support rare et cher. Dans ces régions-là, le papier est fragile, c'est humide. Donc, on a surtout des vellins, donc des cuirs d'animaux. Alors, c'est un truc tout bête, mais pour faire un manuscrit au 7e siècle, au 8e siècle, de plusieurs dizaines de pages, il faut plusieurs fœtus d'agneau, de veau, puisque c'est la peau de fœtus de petits mammifères. Donc, vous imaginez le coût, la difficulté pour ne serait-ce qu'avoir un manuscrit. Quand vous avez ce manuscrit, on ne va pas gaspiller non plus l'espace. D'abord parce que c'est un manuscrit qui est en l'honneur de Dieu, donc il faut aussi faire quelque chose qui soit à la hauteur de Dieu, et en plus vous avez cette idée qu'on va donc densifier. Donc la richesse va être une richesse à la fois de l'objet lui-même, qui est un matériau rare, sur lequel vous avez aussi de l'or, donc on va densifier, et puis une densification aussi par le travail humain, c'est-à-dire que les entrelacs, la complexité. Il va être quelque chose, une manière de le rendre cher, quelque part, au sens presque sacré du terme. Ce qui fait que viennent s'insérer dans ce processus, on va dire, artistique, comme une sorte de don, hein, eh bien, vous avez, les figures viennent ici se déposer, on va dire, mais de façon presque accessoire. C'est pas accessoire quand il s'agit ici de Marie et des anges, mais malgré tout. Alors, le style. Alors là, c'est assez complexe parce que le style est très très loin du style, on va dire, méditerranéen. Alors, pour revenir un peu à l'histoire, l'Irlande a quand même été romanisée, l'Écosse aussi, jusqu'au mur d'Adrien. Donc, si vous voulez, vous avez eu comme une influence de la culture romaine jusqu'en Irlande, mais c'était pas du tout une civilisation, il n'y a pas autant de construction, il n'y a pas eu de cités, comme par exemple en France, où il y a eu toute cette culture gallo-romaine, ou même en Espagne, etc., ou en Afrique du Nord. Donc ça a été une occupation, une influence relativement courte, mais qui a quand même perduré plusieurs siècles, puisque le christianisme est arrivé en Irlande par Constantin et par les Romains, puisque l'Empire romain était devenu chrétien. Donc le christianisme s'est confondu avec des traditions celtiques, qui, elle, était très ancienne et encore très pérenne. Donc, c'est un mélange de tout cela, plus l'influence évidente de tous les peuples nordiques, que ce soit les Vikings, les Germains, les Saxons, qui vont, les Pictes, etc., qui vont donc guerroyer ou, on va dire, occuper plus ou moins ces zones-là et laisser beaucoup de traces, beaucoup de traces. Et puis, vous avez aussi les conditions climatiques qui font que ces peuples-là sont peu des peuples urbains, ce sont souvent des peuples de petites zones comme ça, économiques, de fermes, etc., de possessions, de petites possessions. Et donc, comme je le disais l'autre jour, une partie des biens et de la richesse, y compris des personnages les plus importants, ben, ils les portent sur eux. Ils les portent sur eux, c'est-à-dire ce sont les tissus et les bijoux. Les tissus et les bijoux. Alors, zut, j'ai oublié de vous dire une chose. Là, par exemple, vous avez la tentation de Jésus et le diable ici représenté en noir. Hein, ça, c'est donc Jésus tenté par le diable, etc. Alors, avec ici une multitude de gens qui sont de personnages qui sont associés. Alors, soit ces apôtres, ça, difficile à identifier. Alors, vous avez aussi dans le Book of Kells les évangélistes, puisqu'il s'agit d'un évangile. Et donc, ils vont être chacun représenté. Toujours avec ce même style figuratif, alors très éloigné du réalisme qui était la tradition, on va dire, gréco-romaine. Dans la tradition gréco-romaine, les modèles, ce sont des modèles d'imitation de la nature, d'imitation, y compris de l'anatomie, et on connaît les fresques de Pompéi, hein, ne serait-ce que celle-ci. On connaît aussi les mythes sur le peintre grec Apelle, qui va imiter tellement bien la réalité, les raisins, que les oiseaux viennent se tromper, etc. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Et de ce point de vue-là, l'art irlandais et l'art celtique correspondent très très bien au christianisme. C'est-à-dire que si Jésus s'est fait homme, c'est de façon, on va dire, provisoire. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas dans le monde réel. L'essentiel est dans un monde spirituel, un monde effectivement qui dépasse la trivialité du réel. Et de ce point de vue-là, l'abstraction et les entrelacs et le côté justement presque magique de presque d'orfèvrerie des enluminures correspond tout à fait à ça. C'est-à-dire que le corps humain ici n'est pas représenté pour le mammifère un peu sophistiqué qu'il est, présent dans l'espace et dans le temps, avec ombre, lumière, anatomie, portrait. Vous avez des figures, regardez, ils se ressemblent. Hein, il y a quelques, même Jésus ressemble à peu près à cela. Les drapés sont représentés sans ombre. Il n'y a pas d'ombre propre ni d'ombre portée. Ils sont à peu près assis sur un trône. Et même pour Jean ici, vous n'avez même pas l'aigle de Jean qui soit représenté. Ici, le taureau ici de Saint-Luc est ici représenté à peine. Hein, donc vous avez une figuration même animale extrêmement limitée. Alors que ici, on les voit mieux. Je vais résumer. Les principes d'entrelacs sont vraiment récurrents. Alors pour ça, c'est aussi quelque chose qui est très cohérent dans cet art-là, c'est que l'entrelacs, c'est quelque chose qui est extrêmement dense parce qu'on ne réussit pas à s'en sortir, c'est qu'on ne peut pas le saisir. C'est un truc duel, vous le voyez, vous ne pouvez pas le reproduire tout de suite. C'est quelque chose qui échappe à ce qu'on appelle la gestalt, c'est-à-dire l'identification d'une forme et d'un sens. Vous avez quelque chose qui, tout d'un coup, vous perd. Et c'est symboliquement totalement assumé comme cette idée aussi eh ben, de Dieu. Qui est quelque chose, et qui est une réalité bien plus supérieure dans laquelle on se perd, hein, qui quelque part nous emporte et nous perd. Donc, alors pas l'infini, parce que l'infini c'est une notion qui n'existe pas à l'époque, qui est justement péjorative, mais c'est quelque chose qui est plus fort, hein, qui est plus fort que, on va dire, l'apparence des choses. Cette idée de vous perdre par le graphisme, c'est quelque chose qui est typique et qui donne aussi de la densité. Une petite surface comme celle des croix ici, ou même des petits écoinçons ici rectangulaires, fait que vous vous perdez à l'intérieur. C'est une manière de montrer qu'elles sont justement extrêmement denses, puisqu'on ne peut pas s'en débarrasser. Et donc, ce principe de dentelle, etc. Alors, vous l'avez à chaque fois, avec en plus une invention assez remarquable sur un principe de rectangle, et puis toutes les variations sur les cercles, les carrés, les croix, les incisions, les inclusions, avec en même temps une référence à l'architecture et au symbole circulaire comme associé à l'auréole et à Dieu, l'auréole associée à l'arc de cercle ici qui repose quand même sur une architecture. L'architecture restant, on l'a vu, quelque chose d'essentiel dans la tradition chrétienne. Et vous avez enfin et surtout le début de l'écriture. Il s'agit quand même d'un manuscrit des évangiles, donc on va quand même aborder l'écriture. Et c'est là où vous avez le début des évangiles de Marc et de Jean. Alors, Marc, c'est pareil, difficile de voir le lion, hein, difficile, y compris ici encore, de voir l'aigle. On va peut-être le trouver. Vous avez une figure ici humaine, alors presque incluse, presque entièrement emportée par les méandres des entrelacs. Et puis, vous avez une lettre, alors, plusieurs lettres, alors, difficiles à repérer. Avec une catégorie qui va être croissante, vous avez la lettre capitale, qui va être effectivement caput, la tête. Vous allez avoir la lettre majuscule et vous allez avoir la lettre ici minimale, la lettre on va dire cursive, etc. Donc vous avez un statut. Et ici, c'est l'écriture qui devient effectivement extrêmement chargée d'un sens symbolique. La lettre elle-même devient le support du merveilleux divin. Alors ça, c'est aussi très cohérent avec la tradition chrétienne, puisque Jésus lui-même dit « Je suis le Verbe », etc. Il passe par la parole, on passe par l'écrit, et il y a quelque chose qui fait que, d'ailleurs, les évangélistes sont ceux qui vont traduire par des écrits. Et donc, il s'agit ici d'un manuscrit, et donc l'écriture devient quelque chose d'absolument essentiel dans la décoration. Et donc, l'écriture, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est très facile à trouver un équivalent dans l'art musulman. L'écriture, l'alphabet, c'est l'écriture envoyée par Dieu à Mahomet, et donc l'écriture elle-même devient le support de toute la religion et même de toute la décoration. Mais en fait, c'est ce qui se passe exactement dans cette culture-là, dans cette culture précisément irlandaise, alors vraisemblablement aussi parce que c'est quasiment le seul support qu'ils aient. Il n'y a pas de grands pays, il n'y a pas de grandes églises, il n'y a pas de grandes cités, il n'y a pas de cathédrale, il n'y a pas de basilique. Et donc, le texte est une des garanties de perpétuer la religion. Surtout que ces manuscrits sont extrêmement précieux, sont considérés comme des œuvres d'art, ils voyagent très peu, parce qu'ils sont rares et chers, ils sont protégés par justement dans des boîtes et des coffres et des couvertures, on verra tout à l'heure, très ouvragées. Et ce sont des manuscrits de cérémonie. C'est-à-dire, c'est pas dans la tradition des manuscrits. Je crois que vous avez dit ça. Il y a les manuscrits de Lutrin, il y a les manuscrits de Besace, et il y a les manuscrits de Main. Alors, les manuscrits de Lutrin, c'est ceux qui ne bougent pas. C'est les grands manuscrits qui sont soit pour les officiants, les prêtres, les abbés, soit pour les rois, les princesses, les reines, etc., qui sont donc dans l'église ou dans la chapelle. Sur un lutrin qui sont protégés, etc. Les manuscrits de main, ce sont les pietiers qu'on va pouvoir avoir dans son boudoir, dans sa chambre, dans le cloître. Ce sont des manuscrits plus petits, mais très précieux aussi. Puis vous avez les manuscrits de Besace, qui sont eux, qu'on va mettre dans son sac, qu'on va pouvoir trimballer, par exemple, des herbiers, des choses comme ça. Donc la taille aussi du manuscrit, l'importance dans la vie quotidienne du manuscrit est claire. Et là, vous voyez qu'on se perd, c'est que l'écriture, et ça, c'est tout le paradoxe très intéressant au niveau de la symbolique chrétienne, c'est qu'à la fois, le texte doit vous guider, mais comme c'est un texte sacré, il ne faut quand même pas qu'on tourne dans quelque chose de prosaïque. Donc, il faut que ce texte-là, il soit chargé, hein, il ne soit pas uniquement dans, on va dire, la fonction quotidienne du langage. La fonction du quotidien du langage, elle peut être aussi souillée, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Le langage, l'écriture peut servir à désigner des quantités de grains qu'on va acheter, qu'on va commander. Et donc, il faut en même temps montrer que l'écriture, elle peut être à la fois dans le quotidien, mais aussi dans le sacré. Quand elle est dans le sacré, tout d'un coup, elle perd presque sa lisibilité. Et de ce point de vue-là, exactement comme j'avais vu avec dans les cathédrales gothiques, c'est-à-dire que l'image nous mène à plus haut, à une autre réalité, eh bien, c'est pareil. Alors, vous avez ici aussi, ce que, alors on peut regarder dans le détail, mais j'ai pas toujours eu des bonnes représentations. Alors on trouve le triskel, là on voit l'influence. On voit parfois des figures animales, mais qui elles aussi sont incluses dans ces méandres magnifiques. On trouve les géométries, et puis on trouve quelque chose que l'on associe souvent à l'art celtique, c'est justement les méandres, les flots, les flux. Il y a beaucoup de théoriciens qui ont un peu théorisé qu'en Méditerranée, on voit clair, c'est sec, c'est lumineux, il y a des espaces, etc. L'eau est limitée à quelques fleuves, et la mer, etc. En Irlande, tout est beaucoup plus mêlé. Je dis d'autant plus que, étant finistérien, l'eau, l'humidité, les fleuves, les rivières, les arbres, la végétation, fait qu'on est dans un contexte, y compris presque visuel et mental, où tout se mêle beaucoup plus. Les rias, les aberres, les îles, les archipels, les fjords, etc. Tout cela fait que terre, mer, eau, tous les éléments se mêlent. Et donc, la spiritualité, on va dire, irlando-saxonne, etc., n'est pas tout à fait la même que dans une partie où il fait chaud, où c'est clair, c'est net, c'est urbain, c'est dégagé, et du soleil, etc. Vous avez donc une esthétique qui se développe de façon différente. Et puis, là, vous voyez toujours bon, Luc et Matthieu. Alors, si je ne sais même pas ce que c'est comme lettre, j'ai voulu regarder ce que c'est le phi, etc. Là, on sait même plus si c'est une lettre. Hein, on devine ici une écriture, on devine des lettres. Alors, est-ce que c'est l'oméga, vraisemblablement ici? Et puis, vous voyez, les figures humaines sont vraiment incluses et intégrées complètement dans l'écriture. Alors, on a dit à juste titre, et les grands théoriciens de l'art chrétien comme Henri Faucillon ou Émile Balle, par exemple, ou voilà, une centaine d'années, ont décrit aussi cet art comme un art qui avait beaucoup à voir, justement, je voudrais parler avec le tissu, avec l'orfèvrerie. Le tissu, c'est quoi? Ce sont des fils entrelacés. Avant même la broderie, la structure même d'un tissu, ce sont des fils qui se croisent. Et donc, cette idée du croisement, on la trouve dans le tissu. Or, le tissu, les tissus, ils sont beaucoup plus précieux chez les peuples qui sont moins urbains. Quand on est dans une grande cité, eh bien, la richesse va être dans le bâtiment, l'architecture, les fresques, les peintures, les jardins, etc. Si vous êtes sur une petite territoire, vous êtes un chef ou une chef ou un abbé, etc., puis ça va être les broderies, les tissus et les bijoux. Les bijoux, et donc pour densifier un bijou aussi, ça va être les entrelacs, les fils qui vont se croiser, et avec aussi une technique qui est typiquement qui est devenu nordique, c'est l'art du cloisonné. C'est-à-dire que vous avez un dessin qui est fait avec des bords, on va dire métalliques, et à l'intérieur duquel vont être fondus soit du verre ou vont être enserrés des pierreries. Et donc, dans la représentation ici et dans les entrelacs, vous avez des éléments qui viennent très clairement de ce qui est signe de richesse dans ces peuples, on va dire, nordiques et de l'Ouest, où la mer, les tempêtes, les saisons, etc., sont assez complexes. Alors, je n'ai pas parlé aussi des couleurs. Les couleurs sont extrêmement riches et variées dans ce manuscrit. Dans ce manuscrit, y compris, vous avez des bleus, vous avez des mauves, vous avez des verts qui sont souvent beaucoup plus chers. Tous les bleus sont chers, que ce soit le lapis-lazuli, la cocagne, le bleu de pastel, ou que ce soit, on a vu le bleu de Chartres, etc. C'est quelque chose qui est rare et cher, et donc plus difficile à avoir. Dans la tradition, c'était plutôt les ocres qui étaient plus aisés. Alors ici, par contre, on a quand même cet évangéliste qui tient le livre. Donc on voit l'importance accordée au texte. Et vous avez le fameux chiro. Alors là, il n'est pas du tout évident. Ici, c'est le X grec qu'on appelle le chi. Ici, et là, vous avez rho. Hein. C'est donc les initiales de Christ. Hein, chiro, le Christ, roi des Juifs, etc. Qui est le symbole des chrétiens, le X dans lequel vous avez le rho croisé, qui va devenir le symbole chrétien qu'il était déjà, d'ailleurs, dans les catacombes. Et là, vous avez une appropriation de cette lettre, qui effectivement est à peine lisible, et qui se perd dans des volutes, hein, des véritables. Alors là, j'ai réussi à avoir un document de bonne qualité, c'est relativement récent, hein, où vous avez effectivement une sorte de tourbillon qui évoque justement les flux, les flots, la nature et en même temps les astres, et qui est rehaussé par parfois de l'or, parfois des couleurs, etc., qui évoque l'or. Et vous avez inséré toujours des figures, on voit ici des anges, on voit une tête, on voit bien que les figurations humaines ou animales sont emportées par des logiques supérieures qui les dépassent complètement. Alors là, le merveilleux de ces enluminures font qu'effectivement, c'est sans doute une des pages qui est la plus connue du Book of Kells, celle du fameux Chiro. On verra qu'elle n'est pas la seule. Alors c'est pareil, on peut se dire, on va reproduire une peinture, etc. Mais reproduire ça défie aussi l'entendement, ça défie presque la vision. Ça défie presque vous pouvez le regarder 10 fois, 20 fois, 50 fois. Vous ne l'aurez pas intégré, vous ne l'aurez pas mémorisé, sauf peut-être des gens qui ont une hypermnésie. C'est quelque chose qui dépasse aussi la mémoire, qui fait que vous êtes quelque part fasciné. Et ça, c'est sans doute aussi une des réussites prodigieuses de ce type d'art, c'est qu'il échappe à la vision, on va dire, naturelle. Et il est conçu à la fois sur un domaine presque de fantaisie, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de logique, et pourtant d'une très très grande rigueur. C'est tracé avec des compas d'une très grande finesse. Vous imaginez bien que pour peindre à l'intérieur, parce que ça fait quoi? Ça fait près 40 cm. Hein, donc, si vous voulez, vous êtes dans quelque chose qui est très miniature. Donc, il faut des jours, voire des mois, pour réaliser une planche comme ça. Donc, vous avez aussi une quantité de travail prodigieuse et une très grande rigueur. Et en même temps, on a du mal à voir le plan concerté. Qu'est-ce qui amène l'artiste à tout d'un coup faire des cercles, des ronds? Pourquoi des spirales? Pourquoi tout d'un coup en entrelacs presque un rectangulaire, etc. Donc c'est quelque chose qui est de ce point de vue-là stupéfiant et qui dépasse la seule symbolique des formes et des chiffres. Alors voilà le fameux qui. Alors juste une chose au niveau des couleurs. Jusqu'à hier soir, je le présentais avec d'autres couleurs. Parce qu'en fait, la numérisation fait que on commence à s'approcher de photos de meilleure qualité. Parce qu'avant, il y avait des effets d'onde, de couleur, de lumière, de sensibilité de pellicule, etc. Donc maintenant, on commence à avoir des numérisations qui nous permettent de nous rapprocher de la réalité du manuscrit. Alors l'autre chance, quand même, c'est que les manuscrits étant fermés, ils sont pas exposés à la lumière. Mais s'ils sont protégés de l'humidité, ils étaient quand même dans des coffres, hein, ils savaient préserver leur. Eh bien, ils arrivent ici dans des conditions presque de conservation supérieures parfois à une bonne partie des peintures qui, elles, sont exposées à la lumière. Les tapisseries, par exemple, ont toutes perdu les jaunes et les verts. C'est terrible, parce qu'on aimerait bien les voir telles qu'elles étaient, mais les tapisseries, c'est terrible. La lumière les a. Il faut regarder derrière. Et voilà donc, alors. Cette page s'appelle la page de la crucifixion, mais vous voyez, il n'y a pas non plus le culte à l'image du Christ crucifié, on le voit à peine, hein, c'est quelque chose qui semble dépassé. Et toujours des figures humaines. Alors, voilà le Book of Kells. Alors, par qui il a été rédigé, souvent, on ne sait pas, les gens se disputent un peu, il n'y a pas beaucoup de traces là-dessus, mais en tout cas, il a été, et s'il a été protégé à l'abbaye de Kells alors qu'il avait été rédigé avant, ça veut dire que aussi ces manuscrits, il y avait certains savaient qu'il y avait ces trésors et cherchaient à s'en emparer. Ils étaient protégés, ils étaient cachés comme quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, on est au 7e, 8e siècle, on est en pleine période très complexe, hein. Vous aviez déjà eu les invasions des Saxons, puis ensuite il y aura les Normands, dans toutes ces régions-là. Les Armoricains, etc., vont recevoir une partie des Bretons qui vont arriver en Armorique. Vous avez des zones, vous avez les Vikings qui vont partir à peu près partout. Alors, comme je le disais la dernière fois, une bonne partie de ces envahisseurs, entre guillemets, finissent par se christianiser, mais au début, ils ne le sont pas. Et dans un premier temps, ce qui les intéresse aussi, c'est les richesses des œuvres religieuses qui sont préservées comme si. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que aussi ce sont des monastères, donc c'est réservé à une toute petite élite, parce que en Irlande et notamment dans les îles britanniques, qu'on appelle les îles britanniques actuelles, la religion catholique, elle est relativement ténue. C'est pas encore une religion de masse, puisque règne encore de façon extrêmement forte toutes les traditions celtiques. Les traditions celtiques. Et qu'on voit par exemple en Bretagne, j'ai tout un chapitre sur par exemple la christianisation des stèles gallo-romaines ou des lieux de culte païen, entre guillemets, ça va être très long, très très long. Des cultes qui durent depuis le néolithique, les menhirs, les dolmens, les tumulus, etc. Ensuite, sont parfois, c'est toujours des lieux de culte près des fontaines. Et donc souvent, ils sont christianisés, mais avec beaucoup de concessions, on va dire, avec les traditions locales. Et donc, la pureté, on va dire, le dogme chrétien est préservé surtout par les abbayes. Ça sera pareil d'ailleurs en Espagne du Nord, on va voir dans les Asturies. Et donc, ça, c'est lié beaucoup au texte. C'est la seule chose qui les relie. Parce que là, si vous voulez, il n'y a pas l'empereur, il n'y a pas les forces temporelles, comme il peut y avoir en Italie, comme il peut y avoir à Byzance, où là, le christianisme est associé aux forces politiques. Tandis que là, le chef de guerre saxon ou viking ou breton ou écossais ou picte ou irlandais, il n'est pas forcément très chrétien. Et donc, si vous voulez, vous avez aussi cette idée que les monastères ont un rôle absolument essentiel de préservation. Et donc, le texte est absolument fondamental. Et le texte destiné aussi à des gens qui sont capables d'avoir une lecture à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux. On n'est pas du tout dans le prosélytisme. C'est pas du tout quelque chose qui est destiné à la masse des paysans et des paysannes irlandais. Et irlandaise. Alors voilà, on continue le feuilleter ce manuscrit avec ici toujours le Saint-Luc, Book of Kells. Alors là, on voit tout d'un coup ce que je vais montrer un peu, c'est des pages de présentation, des pages de garde qui annoncent un peu qu'on rentre dans un univers absolument particulier. Et on peut le comparer à l'architecture, parce que l'architecture, de loin, c'est quelque chose de merveilleux, puis vous avez les tympans, vous avez les décorations, etc. Et puis vous allez rentrer ensuite dans l'église où là, il y avait le rituel. Et ben, le manuscrit, c'est un peu une sorte d'annonce extraordinaire qui dit, attendez, vous êtes devant quelque chose d'exceptionnel, il faut vous préparer, vous êtes dans un monde merveilleux et en même temps qui vous dépasse. Et puis ensuite, on va quand même aller au texte. Et donc, on va arriver au texte. Et tout d'un coup, l'écriture va être d'ailleurs d'une lisibilité bien plus grande que plus tard avec l'écriture gothique. Hein, l'écriture, on va dire, mérovingienne et carolingienne de cette période-là est beaucoup plus lisible que le gothique plus récent. Alors, vous avez ici un autre livre intéressant qui n'est pas fini sur le livre d'Armagh, donc qui est à peu près contemporain. Et là, on voit toujours le tétramorphe. Alors, cette idée des quatre symboles des évangélistes est absolument remarquable. Alors, les quatre évangélistes, on l'a vu, il y avait les quatre points cardinaux, les quatre saisons, vous avez tous ces éléments, les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Vous avez ici quelque part cette idée aussi des quatre états de la nature divine de Jésus. Par contre, ce que l'on voit ici, c'est un manuscrit qui sans doute n'a pas été fini. D'ailleurs, c'est le cas du Book of Kells, qui n'a pas été fini. En fait, il est inachevé. Alors, est-ce que c'est que pendant son transfert, ben, ceux qui l'avaient commencé n'ont pas pu le finir, hein? Certains pensent qu'il a été rédigé quand même à Kells, mais il n'a pas pu être fini pour des raisons diverses et variées, parce qu'il suffit peut-être que l'artiste meure, que je ne sais pas quoi. Donc ça, on ne sait pas. Certains de ces manuscrits sont inachevés. Alors, quand ils sont inachevés, c'est intéressant parce qu'on voit aussi le procédé, hein, préalable, dessin, tracé, etc. Quelque chose aussi qui intéresse beaucoup d'un point de vue des arts plastiques, c'est aussi le débordement du cadre ici. Les ailes montrent que ces figures, qui sont quand même des symboles religieux, eh bien, dépassent le cadre. Alors, on va regarder maintenant alors, les lieux. Les lieux que l'on connaît un peu de ces abbayes sont souvent effectivement des îles, des archipels, des lieux retirés pour être loin justement des attaques vikings, pour se protéger plus facilement. Ce sont des lieux aussi qui sont, alors, comme dans la Galarus, des constructions en pierre relativement rares à l'époque, hein, qui ont aussi comme vocation de prouver qu'elles résistent au temps et aux aléas. À cette époque-là, les constructions, c'est souvent des paysans, hein, et des paysannes. C'est souvent des constructions en bois, hein, construisent pas en pierre leurs fermes. Hein, on est très proche des constructions du néolithique ou de l'époque gauloise. Il y a aucune différence de technique, si vous voulez, dans l'habitat voilà, Milan et l'habitat du 6e ou 7e siècle dans les campagnes irlandaises ou armoricaines ou même bourguignonnes ou arverdes. Hein, c'est quelque chose, là, il n'y a pas de technologie différente. Donc, les constructions en pierre, c'est aussi une façon de protéger, mais on voit que ce ne sont pas du tout des grandes églises, ce ne sont pas des grandes assemblées, c'est vraiment des fonctions ici de préservation de ce monachisme irlandais. Alors, pour revenir justement, vous voyez, 5e, 6e, 7e siècle, etc., parce que ce qui se dit et ce qui est vrai, c'est que l'Irlande et les îles britanniques ont été donc romanisées, donc christianisées, mais de façon un peu minoritaire par rapport à la population qui reste souvent païenne, celtique, tradition celtique, etc. Donc, ils sont dans des petits monastères, et en plus, avec les invasions, on peut dire que tout le lien même avec Rome va se rompre. Puisque à partir des grandes invasions, eh bien, tout le lien qu'il y avait avec l'Empire romain se défaisant, surtout dans l'Occident, il n'y a plus de lien avec les empereurs romains. Donc il n'y a plus de continuité avec ce qui faisait la centralité de la Pax Romana jusqu'au 5e siècle. Donc ces îlots vont se retrouver quelque part orphelins de tous les liens qu'ils pouvaient avoir avec les empereurs romains chrétiens, parce que les empereurs romains étaient chrétiens, 5e, 6e, 7e siècle. Tandis que tout l'Occident se retrouve quelque part, donc les chrétiens qui étaient là, bah, plouf, ils sont tout seuls, donc ils préservent dans leur petit coin, ils vont préserver la culture chrétienne dans une sorte de solitude, et ils vont se rattacher à ces objets extrêmement précieux, aux rites chrétiens, et tout en attendant de voir. Et puis progressivement, une fois que la situation se stabilise, eh bien, ils vont réévangéliser. C'est pour ça qu'on dit que les moines irlandais, c'est ceux qui vont réévangéliser, parce que toute l'Armorique, tous les ports bretons, tous les Saint-Budoc, Saint-Malo, Saint-Donat, etc., c'est quasiment que des noms irlandais, et toutes ces légendes de moines irlandais qui seraient venus et réévangéliser l'Armorique, ou une partie, justement, du nord de l'Europe, de la Germanie, de la Normandie, etc. Le premier, on dit, c'est Saint Colomban, avec le voyage et aussi Brandon, hein, qui aurait fait le voyage de Saint Brandon, qui aurait été évangélisé. La légende qui part sur leur barque de pierre, parce que souvent, c'est vous avez des rochers, mais sans doute avec des vaisseaux en cuir, comme ça s'appelle les corraples irlandais, qui traversaient la Manche, la mer d'Irlande, et ils allaient effectivement christianiser. Par exemple, dans le Nord Finistère, moi j'avais une stériole romaine, il y avait un dessin très simple, c'était un petit bonhomme qui tient une croix, ils arrivent et ils christianisent tout de suite des stèles luttées contre le paganisme, et ensuite, ils vont combiner les lieux, etc. Et ça, c'est quelque chose, cette re-christianisation va passer déjà par ces voyages, par ce rayonnement, et d'ailleurs, voilà Kells, hein, ce qui reste de l'abbaye de Kells, c'est cette tour établie par les moines irlandais, avec les fameuses croix celtiques. Alors, justement, Saint Colomban, hein, c'est un des premiers moines, et qui va lui aussi essayer, alors, comme ils sont cultivés, ils connaissent le latin, ils ont préservé le latin, ils savent écrire, ils savent lire, ils ont leurs manuscrits, ils sont en mesure aussi, eh bien, d'éduquer les princes. Et une de leurs fonctions, ça va être aussi d'aller éduquer les princes, les chefs de guerre qui veulent s'établir, qui veulent rester sur place, etc. Et donc, ils vont avoir une importance très grande, comme on voit ici, bon, ça c'est un manuscrit du XIIe siècle, mais qui représente Saint Patrick en train d'évangéliser un roi. Et ici, vous avez le texte de Saint Colomban, avec cette écriture, on la voit très lisible. On connaît le latin. Alors, dans l'origine, en fait, du Book of Kells, eh bien, ce n'est pas le premier, en fait. C'est le plus connu, parce que c'est sans doute le plus abouti, le plus riche, le plus complet. Mais vous avez, en fait, des manuscrits qui sont plus anciens. Alors, plus on remonte dans le temps, d'ailleurs, plus on s'éloigne de la figuration. Comme par exemple, l'évangile de Durot, qui, lui, est autour de 700, donc c'est un des plus anciens, où là, vous avez vraiment ce qu'on appelle les pages tapis, qui sont exceptionnelles au niveau des entrelacs, de la distance prise avec toute figuration. On est vraiment là dans une contemplation eh bien, de ces entrelacs, qui sont parfois ici tissés comme des broderies. Ici, on est plus dans quelque chose qui évoque l'orfèvrerie et les cloisonnés avec quelques éléments animaux. Et puis, alors là, les nœuds, hein, des nœuds, des superpositions qui évoquent aussi les fils croisés de la broderie ou du tissage. Donc, on voit que les références ici sont assez claires. Alors, l'évangile de Durot est aussi très bien préservé. Là, les couleurs sont à peu près justes, mais vous avez vu des jaunes, des verts, des bleus, des mauves, et toujours cette infinie variation, parfois une dominante rectangulaire, des dominantes de cercle, et au contraire ici, des arabesques. Alors, le terme arabesque n'est pas correct ici, mais en fait, si on dit arabesque, c'est justement à cause de tout l'art de la géométrie des musulmans, qui, à peu près à la même époque d'ailleurs, vont développer, hein, à l'Andalous, etc., c'est le 8e siècle aussi, vont développer un art du tissu des tapis orientaux, et un art aussi de l'arabesque, des entrelacs, et des motifs géométriques. Des motifs géométriques, puisque on va pas faire de figuration divine. Alors, quels sont les liens? Comment ça se fait qu'il y ait des correspondances comme ça à cette même époque entre un art on pourrait presque dire ici qu'on est devant un tapis oriental par certains côtés, on est devant une esthétique très proche d'un art musulman. Est-ce qu'il y a eu des connexions ou est-ce que c'est simplement la démarche qui est une démarche ici purement spirituelle qui s'écarte de la représentation humaine? Il faut voir aussi que dans la tradition celtique, il n'y a pas de tradition de représentation humaine, il n'y a pas de représentation de tradition de paysage. On est donc, si vous voulez, on est dans une tradition qui n'est pas du tout celle du bassin méditerranéen, de sculpture, de peinture, de mosaïque, de représentation comme ça des figures ou de portraits. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. Alors voilà, toujours l'évangile de Durot. Hein, alors voilà l'état dans lequel il est quand même. C'est quand même pas mauvais. Il est un peu nettoyé. Et voilà encore quelques pages sur lesquelles vous avez les évangélistes. Alors là, représentés non pas comme des humains, mais uniquement par les animaux. Alors, ici, c'est le lion. Alors, c'est assez marrant parce que, autant si vous êtes dans la tradition méditerranéenne, un lion, vous allez savoir à quoi ça ressemble. Autant en Irlande, ben, le lion, bon, hein, ça va être une bête comme ça, et il demande les dents. Et vous avez d'ailleurs dans la tradition celtique quelque chose qui est assez drôle, c'est que dans les manuscrits armoricains, il y a certes parfois Saint-Marc représenté qu'une tête de cheval. Parce qu'en fait, en breton, Marc, c'est le cheval. Donc, Saint-Marc, bah, c'est sans doute c'est le cheval. Et donc, vous allez avoir Saint-Marc représenté avec une tête de cheval. Bon, vous voyez, là aussi, le lointain est assez drôle. Et voilà. Alors, 700. Et alors, vous avez par contre celui qui est le plus proche du Book of Kells et qui est en fait aussi très ancien, très abouti, c'est l'évangile de Lindisfarne. Je ne sais pas si je prononce bien, autour de 710. Vous voyez, c'est presque 90 ans avant le Book of Kells. Et là, vous avez encore, alors évidemment, le motif de la croix est quelque chose sur lequel je reviendrai, absolument parfait, puisque c'est à la fois une géométrie, c'est un symbole, on peut le mettre sans représenter la figure de Jésus, et puis vous avez aussi les nombres, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous avez les quatre points cardinaux. On sait que les églises sont orientées selon est, ouest, nord, sud, etc. Donc, vous avez cette idée, les quatre évangélistes, la croix et la quatre branches, etc. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être absolument intégré. Alors là, on voit dans l'évangile. Alors là, les documents sont de bonne qualité. Et je vous laisse imaginer le travail des enlumineurs. C'est-à-dire que, comme ça, pendant des mois, ils avec leur compas, leurs dessins, les entrelacs, les effacements, et puis la façon de remplir avec leur pinceau. Alors, juste une chose quand même assez. Je l'ai lu hier, donc, parce que j'ai un peu révisé, j'ai trouvé des nouveaux documents. On est en mesure maintenant de penser et presque de prouver que certains de ces évangiles ont pu être décorés, y compris par des femmes enlumineuses, des femmes moniales. Puisque, alors je ne sais plus exactement comment, bon, en tout cas, on a découvert récemment, l'année dernière, voilà 2 ans, que le squelette d'une des moniales enterrée dans une abbaye lorraine avait du bleu dans ses dents. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y avait du bleu? Et en fait, parce qu'elle devait sucer son pinson, dans lequel il y avait du lapis-lazuli. Et donc, elle était certainement une enlumineuse. Donc, vous avez aussi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant. Hein, alors, archéologiquement, c'est difficile, parce qu'en plus, en Irlande, il y a très peu de squelettes, l'humidité fait que les corps se conservent moins, etc. En tout cas, voilà, Marc et Jean. Alors, vous voyez aussi, pas d'animaux, ou quasiment pas, ou ils sont perdus, il faut les chercher. Hein, on devine Marc, mais tout d'un coup, on voit des aigles, donc c'est pas, ça ne correspond pas au lion. Hein, donc, si vous, à moins que ce soit ici le lion, pas évident. Hein. Mais en tout cas, par contre, une finesse sublime de ces entrelacs, qui sont même pas répétés. Et avec même des dégradés. C'est-à-dire que là, on voit la finesse prodigieuse et la rigueur de cette géométrie et des variations. Alors celui-ci, hein, attendez, je me permets de zoomer aussi, parce que là, vous avez des figures plus ou moins animales. Alors cette idée aussi que l'animal, l'humain et le végétal sont reliés, c'est quelque chose qui est aussi une vision symbolique du monde, c'est que Dieu a créé le monde, donc il y a une continuité dans le monde. Le monde, qu'il soit végétal, astral, animal ou humain, c'est une continuité. C'est pas du tout, il n'y a pas de, même s'il y a une hiérarchie, eh bien, vous avez quand même une continuité, il n'y a pas de dissociation. Et faire partie du monde, c'est être aussi relié. On l'avait vu dans les cathédrales gothiques, c'est relié de tout, hein. Et bien là, c'est relié par le fil conducteur ou le fil d'Ariane du labyrinthe ici. Alors, toujours Lindisfarne, on pense savoir qu'il est de ce moine Eötvös, je ne sais pas comment on parle exactement. Et voilà encore quelques variations. Alors, ce qui est aussi remarquable et stupéfiant dans ces manuscrits, c'est la différence sur le même manuscrit des registres d'entrelacs, qui sont parfois plus courts, parfois plus géométriques, parfois cercles, parfois carrés, etc. Les registres de couleurs et toutes les variations sur la croix. Alors, Lindisfarne. Alors, voilà la page, la couverture du livre, qui est effectivement une orfèvrerie prodigieuse. C'est vraiment comme une chasse. De la même manière qu'on pouvait garder dans les chasses les reliques, eh bien, on voit que le manuscrit est préservé et présenté comme ce qu'il y a, il peut y avoir de plus précieux dans ces cultures-là. Puisqu'il y a même des bijoux certis. On retrouve ici le qui, l'euro, etc. Et vous avez là quelques figures. Alors, les figures sont symboliques puisque l'idée, ce n'est pas de représenter le réel. Alors là, par exemple, cette page-là est incroyable au niveau de la diversité des couleurs. Vous avez quasiment toute la gamme de l'arc-en-ciel, du ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, en passant par l'indigo, le bleu, le vert, l'orange, etc., et le jaune, est préservée de manière incroyable. Et puis, tous ces jeux, toujours, alors, je ne vais pas répéter 10 000 fois, mais dans une variation incroyable. Alors donc, on comprend bien que l'évangile de Book of Kells ne vient pas de nulle part. C'est vraiment aussi une tradition. C'est quelque chose qui est connu. Et en fait, tous les moines, alors c'est quand on regarde les emplacements de Lindisfarne, de Kells ou de Iona ou de toutes ces abbayes, il y en avait aussi dans le nord de l'Angleterre, en Écosse, etc. C'est pas très loin. Hein. Il faut imaginer qu'ils voyageaient sans problème. Déjà, les Romains, ils venaient là. Cette idée de voyager, c'est pas quelque chose qui était un problème. Donc, il y avait certainement des échanges et un moine était peut-être novice dans une abbaye, puis il allait fonder une autre abbaye. Dans cette abbaye, il a peut-être pu voir le manuscrit et il a amené le copiste, etc., pour regarder, etc. Alors là, on est toujours dans Lindisfarne. Alors, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que vous avez une gamme d'expressions qui est variée entre les pages qui sont presque des pages tapis sans figuration. Et là, des figurations qui sont, on va dire, plus classiques, qui deviendront plus classiques par la suite, et toujours les évangélistes. Alors, les évangélistes, ça c'est extraordinaire, toutes les manières d'écrire, parce que l'écriture, vous avez une dimension un peu performative, vous avez quelqu'un qui écrit un manuscrit sur des gens qui ont écrit des manuscrits, quelque part. Donc, vous avez aussi cette idée de valoriser encore plus l'écriture, parce que ça, la parole de Dieu, elle vient par des gens qui ont écrit. Et on les représente donc. Ils seront présentés avec presque à chaque fois, c'est peut-être les personnages les plus représentés. Ils sont aussi comme les moines, les évangélistes. C'est-à-dire qu'ils vont porter la parole, ils écrivent et en plus, ils vont aller sur la terre entière, enfin, sur tout l'Empire romain. Eh bien, les moines irlandais, ils se voient aussi comme des évangélistes. On imagine donc, c'est ce qu'ils feront d'ailleurs, ils amèneront leurs textes et leurs manuscrits partout où ils pourront. Donc, c'est vrai, ils ont l'impression de revivre quelque part 600-700 ans plus tard, l'épopée des évangélistes. Alors c'est écrit ici, c'est marrant, en grec, hein, Agios, Luca, etc. Donc vous avez aussi un mélange des langues. Et alors le style de la figuration, il n'est pas évident à identifier. Il n'est pas évident à identifier. Ce n'est pas le même que sur le livre de Kells, vous avez vu. Ici, ils sont plus naturalistes, on va dire. Dans Bukowskel, ils sont beaucoup plus éloignés au niveau anatomique. Voilà. Alors, toujours l'évangile de Lindisfarne. Hein, et vous voyez ces lettres, alors que j'ai du mal à identifier. Je ne sais pas ce que c'est ici. C'est peut-être le Ioannous ici, Aquila, alors l'aigle de Jean ici. Donc, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Et on voit bien comment est-ce qu'on passe de la capitale qui est en tête, la majuscule qui est plus grande, Magnus, etc., et ensuite à la minuscule. Hein, vous avez une sorte de. Et la capitale, ça va être en tête, c'est ce qui annonce, hein, effectivement, et qui prend toute la place, et qui cadre, qui fait presque comme une architecture. Alors, ceci dit, on voit que c'est quasiment les mêmes lettres et les mêmes graphismes qui est utilisé dans le Book of Kells. Donc on voit qu'il y a un lien très très clair entre Lindisfarne et Kells. Et alors, par contre, dans Lindisfarne, vous avez ce qu'on n'a pas dans Kells, c'est-à-dire ces pages où justement on passe de la lettre la plus grande qui est introduite avec ce texte qui commence à être lisible. Lisible. Moi, j'ai un peu de mal, mais. Et ensuite, il devient parfaitement commun, comme on le voit ici. Donc, et vous voyez cette espèce d'introduction progressive où, plus on va rentrer dans le texte, quand il va faire du sens, eh bien, on peut perdre la dimension, on va dire, purement plastique, magique, de beauté, esthétique, pour aller dans, cette fois-ci, au cœur de la religion, c'est-à-dire la transmission d'une parole et d'un dogme. Alors aussi des choses, la peur du vide fait que l'entrelacs et la géométrie, c'est quelque chose qui permet justement de ne pas avoir de vide. Ça densifie, mais on voit que ça va aussi, par exemple, les petits points, le graphisme, cette idée de toujours montrer qu'on n'est pas devant quelque chose qui pourrait être angoissant ou anxiogène comme le vide. Et regardez ici les capitales, cette fois-ci, et le chiro, exactement le même que celui de Book of Kells, cette fois-ci, sauf que on arrive plus dans le texte. On peut dire que le Book of Kells radicalise complètement l'esthétique, on va dire presque abstraite de l'écriture, en détachant les premières pages et les premières initiales du texte, en en faisant des pages presque à part, hein, des pages qui sont entièrement consacrées à une initiale, quelque chose de presque mystérieux et symbolique. Et là, vous avez encore justement un texte de la même époque. Alors, ce que l'on voit aussi, qui est assez évident, c'est les copies. Puisque, et on voit bien que l'évangile de Lindisfarne, ici l'original, et là, vous avez une copie carolingienne, donc un peu plus tard, on voit très clairement, il a reproduit exactement, alors, avec moins de richesse, parce que on verra la période carolingienne. Ici, c'est sur du parchemin, sur du papier, c'est moins cher. On est ici dans une diffusion et dans une période, on est quelques siècles plus tard, où, si vous voulez, le manuscrit a plus cette dimension sacrée d'objet d'art précieux. Hein, ça devient un texte. Et donc, on s'éloigne un peu de la beauté et du raffinement de façon très, très claire. Par contre, c'est un style, mais en plus, c'est une tradition carolingienne, c'est pas tout à fait la même. Et là, on voit, c'est très clair. Et on voit toujours le Lindisfarne absolument magnifique. Donc, Lindisfarne et Kells sont remarquables. Alors, vous avez un évangile, pour ne rien vous cacher, je l'ai découvert hier, avec ici, c'est très incomplet, il reste peu, qui lui est aussi avant le Book of Kells, c'est l'évangile de Saint Cad ou Saint Chad. Et on retrouve ici Luc et Marc, avec des variantes. Alors, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est de voir ici, on a du texte, hein, on va trouver des figures. Alors ça explique aussi ce que sans doute les moines irlandais, on dit les moines irlandais, mais ils pouvaient venir aussi d'ailleurs. Peut-être que certains se sont réfugiés en Irlande pour fuir les invasions, mais pouvaient être aussi des moines parfois qui venaient de Gaule. Et peut-être même parfois on pense certains d'Espagne. Parce que justement, ce style-là est un style qui évoque un peu la culture mozarabe et la culture de la péninsule ibérique. Il est très possible qu'il y ait des moines et des chrétiens qui, fuyant les invasions, remontent jusque là où ils sont peut-être un peu plus protégés en Irlande, c'est quand même un peu éloigné. un peu de viking, mais ça va être relativement modéré. Donc vous avez aussi ces échanges possibles qui expliquent les différences de style, et y compris même à quelques kilomètres de distance. Alors celui-ci est intéressant, Saint-Chad. Alors vous avez aussi l'évangile irlandais de Saint-Gall qui est extraordinaire, qui a été préservé dans l'abbaye de Saint-Gall en Suisse, mais l'abbaye de Saint-Gall avait été fondée par un moine irlandais. Et donc le moine irlandais est arrivé au 6e siècle, a fondé un monastère irlandais et donc a commencé à essaimer là-bas. Et le manuscrit, qui était de tradition irlandaise, a été conservé dans une abbaye en Suisse. Et là, vous avez plus de figures, hein. Là, cette fois-ci, vous voyez que l'importance des Jésus avec ici des anges, ici avec ses apôtres, hein, il y a les 12, alors Judas est sans doute celui qui a la marque noire sur la main, on peut imaginer que c'est cela, et puis vous avez toujours les 4 évangélistes avec des figures assez étonnantes, celui-ci qui a presque une coiffe orientale, un turban. Donc c'est là aussi, on peut imaginer, et d'ailleurs regardez le style, hein, des figures. Nous rapprocherait presque de figures orientales ou qui seraient passées par. C'est bon, très beau jour, hein, les Visigoths, ça ne les a pas gênés de venir de l'Orient, d'arriver en Italie, d'arriver en Espagne du Sud, vers le 4e, 5e siècle. Donc, si vous voulez, les croisements culturels sont parfois assez stupéfiants. Et voilà comment ça peut voyager. Alors, le manuscrit de Saint-Gall est très, très beau. Très original aussi, mais reprend, regardez, on retrouve quand même toujours le même chiro, exactement la même forme, avec quelques variations. Comme il est moins précieux, il a pas cette espèce de. Alors, vraisemblablement, parce qu'il est dans une terre aussi qui n'est pas la terre irlandaise, il a peut-être une vocation plus didactique, et donc il est moins chargé, moins dense que le manuscrit de Lindisfarne, de Durrow et de Kells. Mais il y a quand même des pages tapis, et vous avez quand même toujours alors Jésus ici, avec toujours les quatre, le tétramorphe ici. Alors cette fois-ci, ce sont des humains représentés avec des têtes d'animaux. Alors, on va continuer, parce qu'il y en a beaucoup à voir. Toujours le manuscrit de Saint-Gall. Alors lui, il est très complet, hein. Il est remarquable de ce point de vue-là. Alors l'abbaye de Saint-Gall, si vous voulez vous y pencher, c'est une abbaye qui va servir de modèle, dont les plans, l'ordonnancement, le fonctionnement des moines, des frères convers, l'autonomie aussi de l'abbaye, parce que ces abbayes, pour vivre, comme elles étaient quand même minoritaires, elles étaient autonomes, autarciques. Et donc l'autarcie du monastère de Saint-Gall qui va inspirer quasiment les moines bénédictins par la suite, clunisiens, etc. C'est-à-dire que toute la structure du monastère de Saint-Gall est absolument remarquable. Il y a un plan de l'abbaye de Saint-Gall. On voit que ce sont des gens qui ont des idées très précises. Ils savent très très bien ce qu'ils font au niveau que ce soit des œuvres qu'ils font, de leur démarche de prosélytisme, leur façon aussi d'aller voir les chefs de guerre, les princes, les envahisseurs pour essayer de les intégrer, les christianiser, etc. C'est quelque chose, mais qui s'adresse toujours dans un premier temps, on va dire, à une élite. On va dire que le peuple, dans un premier temps, on le laisse à ses croyances. C'est un peu trop compliqué. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Ils sont en plus souvent soumis à des chefs locaux. Ils ont les traditions locales, les druides, etc. Donc, voilà, c'est encore très difficile de s'adresser à la population. Il faut dire qu'il y a, il y a, c'est une religion des dirigeants, de l'élite. Alors là, regardez justement. J'ai repris les chiros ici de Lindisfarne et de Saint-Gall et celui de Lichfield et de Kells. Donc vous voyez que là, on arrive presque sur un siècle. Vous avez une évolution, hein, et en même temps une transmission de ces premières initiales qui sont symboliques, hein, le qui et le ro, qui est figure de chrétienne, du Christ. Et donc voilà. La première lettre. Et ça, vous avez donc Kells, et vous avez celui de Lichfield qui est très proche. Et ça, c'est assez clair. À chaque fois, celui-ci s'écarte aussi du texte. Alors, vous avez les figures animales, etc. Et celui de Kells que je vous ai déjà montré. Donc, là aussi, c'est assez évident, les filiations. Donc, le Book of Kells ne vient pas de nulle part. Alors, d'ailleurs, il y a de façon contemporaine, alors je ne vous ai pas montré de façon exhaustive. Alors d'abord parce qu'ils sont pas tous numérisés encore, hein, ils sont peut-être pas tous accessibles. J'ai pas encore été regardé parce que il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que si vous regardez même sur un Gallica, c'est voir manuscrit, bon, bah, vous ouvrez manuscrit 8e siècle, etc. 90%, je dirais, des manuscrits en fait sont du texte. Il y a en fait les enluminures sont rares. Les enluminures sont rares et souvent, par exemple, pour avoir les évangélistes, eh bien, vous avez la page qui montre l'évangéliste, mais après, vous avez 30 pages de l'évangile, c'est que du texte. C'est que vous avez vraiment les enluminures, c'est vraiment une sorte d'emballage artistique, une sorte de présentation, une manière de rendre précieux ensuite un texte qui va être précieux, mais pour d'autres raisons, qui va être précieux par son contenu narratif, symbolique, religieux, dogmatique. Comme modèle, mais donc vous avez une dissociation très. Même l'objet manuscrit est de ce point de vue-là assez étonnant. Fait que parfois c'est assez difficile parce que vous devrez 10 manuscrits pour 4 images. Hein? Moi c'est parfois ce que je fais, j'ouvre un manuscrit, 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 et suite, bon, heureusement il y a la présentation mosaïque, bon, et puis vous allez prélever. Mais, et puis certains manuscrits eux, sont très très riches, là vous avez, mais souvent c'est dédié à des personnages importants, à des personnages très importants. Voilà, alors. D'autres évangiles comme cela. Et puis, voilà, on va arriver dans les sacramentaires selon carolingiens. C'est-à-dire que vous avez, j'en parlerai du moine Alcuin, et puis qui ont pris de Rabban de Mort et d'autres moines qui vont voyager en Europe continentale, et puis ils vont essayer de christianiser ou d'éduquer, parce qu'ils sont très cultivés, ils connaissent très bien les textes, y compris sans doute parfois des auteurs grecs, et vous avez alors. Auteurs grecs, il ne faut pas oublier qu'on les connaît par la tradition musulmane qui est arrivée. Enfin, tout ça, c'est complexe. Et voilà le sacramentaire de Drogon, alors là, qui est très important, qui était dédié à je ne sais plus quel roi carolingien, hein, 9e siècle. Et vous avez ici, ce qui est net, c'est que vous avez toujours une importance donnée à l'écriture et aux entrelacs, mais qui va. Intégrer des fioritures qui ne sont pas celtiques, on va dire. Ces sortes de fleurs et feuilles d'acanthe évoquent beaucoup plus, finalement, les modèles méditerranéens et romains. Donc, classique, la feuille d'acanthe qui est sur les chapiteaux. Donc, vous avez ici, en fait, l'empire carolingien et le phénomène carolingien, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant, va être assez remarquable, de croisement entre une tradition, on va dire, celtique. Et puis une tradition germanique, et puis une tradition méditerranéenne. Et c'est ce qui va caractériser l'Empire carolingien. D'ailleurs, vous avez ici les représentations ici, des aigles, du lion et du taureau, sont des représentations qui sont plus vraiment celtiques, qui évoquent plus quelque chose, une esthétique germanique, notamment la représentation du lion. Alors, justement, voilà les grands savants. Comme par exemple Rabban de Mort et Alcuin, Alcuin qui finira d'ailleurs sa vie à Tours, Saint-Martin de Tours, qui sont parmi les fondateurs et les formateurs, ceux qui vont former, on va dire, des gens comme des rois, des abbés, des évêques, des princes. Et donc Rabban de Mort et Alcuin sont de vrais intellectuels, représentés ici deux fois, donc dans des manuscrits ultérieurs, mais qui rendent hommage à ces savants, ces grands théologiens. Qui arrivent ici, regardez, avec des livres. Ils arrivent avec le livre, et c'est-à-dire que les livres, ils vont aussi échanger et ils vont montrer certains livres et influer, justement, par exemple, le psautier et l'évangile de Saint-Denis, qui est typique des évangiles carolingiens, parce que là, il est sur un fond bordeaux. Et vous avez beaucoup de manuscrits qui, pour donner de la valeur, si c'est du papier, si c'est plus du veau, il faut donner de la valeur, donc par exemple de la couleur. Ça peut être de l'or, ça peut être une couleur, parce que pour écrire sur cette couleur bordeaux, ben on va écrire avec de l'or, etc. Donc vous avez l'évangile de Saint-Denis est ici assez extraordinaire, parce qu'il est entièrement sous des feuilles colorées, sans doute en pleine pâte, couleur bordeaux, etc. Alors, Alcuin, c'est une figure absolument essentielle du monachisme et de l'intellectuel. Alors, vous avez Rabban de Mort, qui est aussi un savant, un littérateur, un symboliste, qui va écrire un manuscrit qui va avoir un succès extraordinaire pendant des siècles. C'est l'hymne à la Sainte Croix. Le titre exact, c'est bête, je l'ai oublié, mais où il va faire. Alors là, on est sur le texte, justement. Quand je vous ai montré que les manuscrits irlandais étaient beaucoup liés à l'écriture, eh bien l'écriture, et comment sanctifier l'écriture, ça peut être par les majuscules, par les capitales, par les enluminures, etc., par les matériaux. Alcuin fait quelque chose de plus subtil conceptuellement encore, c'est que l'écriture, c'est quand même la parole par laquelle on va dire Dieu, et donc il fait une série de diagrammes. Tous carrés, et dans ces carrés, vous avez une multitude de figures de la croix. Là, par exemple, on retrouve le qui et le rho. qui, la lettre qui, et l'euro, qui sont les initiales de Christ, première lettre de Christ, etc. Et dans un carré où vous avez des lettres carolines, c'est-à-dire l'alphabet latin, eh bien, vous allez avoir, un peu comme les mots, vous faites ça parfois, les mots, pas les mots croisés, mais vous avez une grille dans laquelle vous allez retrouver des textes, des mots. Hein. On va les rayer, bon, je le fais. Eh bien, il va inventer ça. Il va inventer ça, et dans une grille de lettres, vous allez retrouver des messages chrétiens. Des messages chrétiens qui sont tous en hommage à la Sainte Croix. Et donc, vous avez ici quelque chose qui est purement géométrique, un jeu de lettres, un jeu de mots. Et alors, à un moment, vous allez avoir des lettres dans les lettres, vous allez voir tout d'un coup la figure de Jésus, etc., mais qui est presque annexe, ce n'est pas un portrait. Alors là, le Rabban de Mors, ça va avoir un succès fou, il va être copié, copié, recopié. D'abord, si j'ai jamais été de près regarder comment retrouver les textes, mais voilà quelques exemples ensuite de son hymne à la Sainte Croix, etc. Donc c'est un manuscrit, alors là, qui n'a pas besoin d'être précieux en termes de papier, d'or, de dessin, d'image. C'est le langage lui-même qui est de l'intérieur travaillé pour en faire un monde merveilleux dans lequel on peut se perdre. Hein, on peut se perdre parmi les lettres, parmi les mots de tous les jours, et on a retrouvé une dimension symbolique de façon évidente. Alors ici, vous avez Carolus, hein, Carolus, hein, c'est évidemment aussi une manière de chercher, et on va le voir ici d'ailleurs, alors voilà des exemples, des variations hein, jusqu'au XVe siècle. Donc là, vous voyez la même figure ici de Jésus, et ici de Louis le Pieux, père de Charles le Chauve, puisqu'effectivement, un des enjeux pour les moines irlandais et les moines, enfin, tous les chrétiens perdus dans le monastère, c'est retrouver un appui au niveau des princes pour essayer de reconstituer des royaumes chrétiens. Parce que tout seuls, ils sont en butte aux chefs de guerre, aux voyous, aux chevaliers, cavaliers, etc., aux petits rois locaux. Et donc, ils cherchent une sorte d'appui et ils pensent que plus on aura un appui élevé, eh bien, plus effectivement la religion chrétienne pourra être établie. Donc c'est une sorte de conquête. Et donc ils sont en recherche, comme par exemple Louis le Pieux, effectivement, qui se trouve un soldat de Dieu. Un soldat de Dieu, donc il a le bouclier, il a la croix, il a l'auréole. Et donc Louis le Pieux va devenir une sorte de référence pour ces chrétiens-là. Et ils vont essayer de convaincre Charles le Chauve, et puis ensuite, enfin, avant, il y aurait eu Charlemagne, etc., qui vont être des images, justement, de ces princes qui se christianisent et qui font de la religion un de leurs outils de domination et de conquête. Et alors voilà, c'est très clair. Et là, on voit que c'est un modèle qui va. Parce que ça, ce sont des modèles du XVe siècle. Donc on voit que, alors que les manuscrits enluminés, tels que Book of Kells, vont être un peu abandonnés au bénéfice d'une narration plus didactique, eh bien, c'est en honneur de la Sainte Croix. Voilà, c'est son manuscrit. Ça devient un modèle. En honneur de la Sainte Croix, vous avez des dizaines et des dizaines de variantes dans toute l'Europe. Mais c'est Rabban de Mors qui l'a inventé. Alors, ça, c'est pour vous montrer, en gros, une tradition autour de l'écriture, de la lettre et du texte, presque abstraite et conceptuelle. Mais vous avez, au IXe siècle, la tradition des manuscrits de Méditerranée. L'autre jour, avec Diana Placidia, on a vu les mosaïques, etc., mais je n'ai pas tellement abordé les manuscrits. Parce que les manuscrits chrétiens byzantins, eux, sont, on peut dire, à l'opposé des manuscrits chrétiens, et là, un manuscrit du IXe siècle contemporain, et vous avez alors là la tradition, on va dire, romaine et grecque de la fresque, de la peinture et de l'imitation, est beaucoup plus dans le réel. Donc on a des anecdotes, on a un fond de ciel bleu presque cobalt, on a du dégradé, on a la terre, on a les événements de la passion des Juifs, Saint-Pierre crucifié la tête en bas, vous avez Saint-Paul décapité, vous avez les martyrs des saints, vous avez quelque chose, une narration. Alors, comme c'est une sorte de gouache ou de tempéra, ça a été un peu plus abîmé, mais ici, une véritable bande dessinée au sens strict, des bandes dessinées avec des textes qui sont absolument extraordinaires. Ça, c'est l'homélie de Grégoire de Nazianzé. Alors, l'homélie du 5e siècle, le manuscrit du 9e siècle. Et voilà encore quelques exemples où vous avez ici une tradition. Alors, comme ce n'est pas dans l'architecture, ce n'est pas en hauteur extraordinaire. C'est un manuscrit précieux qui est fait pour des princes, etc., mais qui a une esthétique à l'opposé de celle des manuscrits irlandais. De la même manière, le psautier de Paris, alors conservé à Paris, qui vient de Byzance, et on voit que l'art byzantin dans les manuscrits, C'est assez étrange parce que l'art byzantin dans l'architecture s'éloigne avec les icônes qui sont des figures sacrées et devient très vite symbolique et très distancé. En hauteur, mosaïque, avec des figures hiératiques. Mais dans les manuscrits, l'art byzantin reste beaucoup plus près de la tradition presque romaine, des fresques de Pompéi avec de la narration, avec de la perspective, avec des événements, des anecdotes. Ici, vous avez vraiment David et Goliath. Hein, on voit écrit en grec, David et Goliath ici. Les soldats, les costumes, l'action, l'anatomie, la présence ici de femmes, alors un ange par-ci par-là, le texte à côté, et puis des éléments de perspective, d'ombre et de lumière, de réalité, de détails, les sandales. Rappelez-vous comment les humains étaient représentés dans les manuscrits irlandais, ça n'avait rien à voir. Et c'est contemporain. Donc, Sautier de Paris, alors il est très. Alors, on voit qu'il y a plusieurs mains, hein, parce que vous avez un style, on va dire, qui est plus fondu, un style avec moins de graphisme, et ici un style qui est plus graphique, avec des traits continus, etc. Et là, on n'est pas loin, regardez, des fresques de Pompéi, y compris au niveau des arbres, des figures, du modelé, etc. Donc, c'est une tradition qui est très longue et très forte, et on la voit toujours dans le Sautier de Paris, alors il est d'une richesse prodigieuse. Et par contre, et là c'est très drôle, vous avez des ambiguïtés. Parfois on va représenter l'espace et le ciel comme avec des dégradés, hein, des dégradés atmosphériques, avec du bleu, avec un véritable paysage, une architecture presque en perspective, des modelés, presque des ombres au sol, et puis on va passer tout d'un coup à la dimension sacrée avec le fond doré. Donc on voit aussi qu'il y a des hésitations. C'est une esthétique qui n'est pas codifiée, qui est parfois laissée à l'enlumineur ou l'enlumineuse, qui va faire en fonction de sa culture son héritage. Et personne n'est là pour lui dire que c'est incorrect, que c'est pas juste. Et la diversité, alors je vais vous en montrer d'autres. Et alors voilà, là par contre, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est la Bible carolingienne de saint Paul. Et là, vous avez alors là, on commence à voir la fusion des deux écoles. La fusion des deux écoles, vous avez en bas, toujours, alors 875, donc 75 ans après le Book of Kells, en bas, vous avez la tradition irlandaise, on va dire, qui est un peu romanisée avec des rinceaux qui évoquent plutôt les décors qui sont sur les temples grecs ou romains, hein, la décoration grecque, mais avec quand même le texte et les entrelacs celtiques. Donc un vrai. Et puis, dans le même livre, dans le même manuscrit, vous avez des représentations qui, elles, empruntent clairement à la tradition byzantine. Et c'est cela qui est typique de la tradition carolingienne, c'est la jonction de ces deux écoles artistiques qui fusionnent progressivement avec en plus qui font des manuscrits d'une beauté prodigieuse. Regardez par exemple la Bible de Charles le Chauve, Charles le Chauve qui était aussi donc un carolingien, mais sa Bible ici, elle est totalement dans la tradition hein, du manuscrit byzantin qu'on a vu tout à l'heure de Paris. Avec des dégradés, avec des modelés, etc. Et on voit bien que les prêtres, les théologiens ou les princes de l'époque ne se formalisent pas. Ils peuvent accepter aussi bien l'une que l'autre. Toujours la Bible de Vivien de Charles Chauve, alors qui est préservée de façon absolument sublime, et elle aussi qui emprunte quasiment avec la narration, la BD, les anecdotes. Tout d'un coup, on va retrouver l'architecture, enfin, le symbolisme de la géométrie. Et alors pour les figures, alors assez classiques, hein, on va retrouver les évangélistes, les quatre éléments. Là, on voit le tétramorphe avec les évangélistes. Et puis, alors ici, la densité ne vient pas de l'entrelacs, elle vient de la capacité à suggérer le réel. Dans la représentation, la virtuosité pour les figures, pour la vie, c'est ça qui donne la densité. C'est un coup. Parce que comment est-ce qu'on va rendre une surface importante? Soit on se perd dans les entrelacs, soit tout d'un coup on se perd parce qu'on peut plonger du regard dans une scène, tout d'un coup on croit la vivre. C'est l'imitation qui devient aussi séduisante. Et là, vous avez une hésitation, ils acceptent les deux. Voilà le sacramentaire toujours. Alors Charles Chauve, c'est prodigieux. Autour de Charles Chauve, vous avez une école. On parle de Renaissance, mais en fait, au niveau artistique et intellectuel, autour des Carolingiens, c'est d'une richesse incroyable. Alors, les manuscrits, on ne les connaissait pas. On connaissait surtout ben, Aix-la-Chapelle, et puis bon, Carolingien, ça fait un peu lointain et barbare, mais quand on regarde de près, c'est d'une sophistication absolument sublime. Alors là, vous avez tout. On peut dire qu'ici, il réussit à combiner sur la même image à la fois la tradition byzantine de la représentation anatomique, le modelé, le corps, etc., presque l'émotion. Vous avez les entrelacs, vous avez les motifs ici qui sont presque des motifs gréco-romains, les entrelacelles, et puis l'or, hein, byzantin ou l'or, etc. Alors là, attention, c'est pour un prince, pour un roi, qui a vocation à devenir ici, effectivement aussi chef de la chrétienté, comme Charlemagne, etc. Donc vous avez ici quelque chose qui est aussi très précieux, qui est dédié à Dieu, mais aussi dédié à un prince, à un roi chrétien, un empereur chrétien. Ici, de la même manière, alors on voit que ça va se continuer, le sacramentaire de Peter Hausner à Reichenau, où vous avez une combinaison, comme je l'ai déjà dit, avec des inventions sublimes, comme le cercle ici, une importance donnée à Marie, ici, presque comme une impératrice byzantine, et ici, Jésus trônant, et puis le texte aussi, intégré avec. Alors, je pense que c'est un truc tout bête, je pense que là, ici, c'est le dos. Le dos, et ce que l'on voit ici, c'est les traces d'un envers, d'une figure qui était dans un cercle. Et là, vous voyez aussi l'hésitation entre la figure ou l'abstraction, la lettre ou l'image, et parfois les deux. Alors, toujours le même, hein, et là, on a abouti à quelque chose d'assez remarquable, les bleus aussi, sublimes, et des rinceaux ici, parce qu'en fait, vous aviez quand même dans la tradition byzantine et romaine, on l'a vu avec Galla Placidia, la géométrie, vous aviez des motifs aussi d'entrelacs. Alors, parce que les rinceaux et les motifs comme ça d'entrelacs évoquent aussi la végétation. C'est-à-dire que dans la tradition, on va dire nordique et saxonne, irlandaise, les entrelacs ont l'air d'être évidemment des fils croisés de tissus, etc. Mais on trouve dans la végétation les rinceaux, les entrelacs, etc. Ce qui fait que vous avez aussi quelque chose qui est. Et là, on voit bien, hein, comment quelque chose qui se noue ici, qui devient végétal et qui devient aussi, qui peut devenir écriture. Et donc, cette continuité est absolue et c'est un peu un émerveillement du monde aussi. Alors, ce qui est sublime aussi, c'est de voir la diversité des manuscrits de l'époque. C'est qu'en fait, on a le Book of Kells qui a un emblème, mais il ne faut pas croire que tout se ressemble. Par exemple, le psautier d'Utrecht est totalement à part aussi. C'est un psautier carolingien où là, vous avez une figuration, alors je zoome un peu, qui est d'une liberté incroyable. Il y a très peu d'équivalents. C'est un livre aussi de psaumes, hein, donc d'évangiles, etc. Où vous avez là un dessin qui est à sa façon une continuité de l'écriture. Parce que le fait d'utiliser l'encre et la plume avec laquelle vous écrivez, tout d'un coup, vous rentrez dans l'image, fait que le dessin est une continuité de l'écriture réciproquement. Ils ne sont pas opposés. Parce que l'idée aussi, c'est que l'écriture étant sacrée, eh bien, finalement, l'outil de l'écriture, soit on le densifie comme les entrelacs celtiques, soit, à la limite, ben, il faut en faire, sinon on la met à part, comme ça se faisait beaucoup dans les manuscrits irlandais ou carolingiens. Une fois que vous rentrez dans le texte, vous êtes dans le texte. Et il n'y a plus d'image. Là, dans le psautier d'Utrecht, eh bien, on passe de l'un à l'autre. C'est presque le même outil qui fait à la fois l'image et l'écriture, et qui s'entremêle de façon très belle, avec des pleines pages ici, quasiment, hein, qui sont alors d'une virtuosité aussi prodigieuse. Là, quand vous regardez l'anatomie, la vie, les croquis, etc., les troupes, les paysages, c'est. Alors, hélas, j'ai une reproduction qui n'est pas de très bonne qualité, mais fascinant également. Alors, vous avez aussi, à cette même époque, vous avez des textes religieux, mais il n'y a pas que des textes religieux. Vous avez aussi des textes philosophiques, comme par exemple le manuscrit de Constance, ou ici, qui sont ce qu'on appelle des psychomachies. Des psychomachies. Et ça, c'est deux fois le même texte qui était de Prudence, philosophe latin, méditerranéen, on va dire, de cette période-là, 348-410, mais dont la philosophie était très précieuse et qui, en gros, avait figuré, en gros, les vices et les vertus. Le bien et le mal, c'est plus vraiment Dieu, c'est chaque humain est confronté. À chaque fois que vous avez un vice, vous avez une vertu. Chaque fois que vous avez une vertu, vous avez le vice opposé. Et à chaque fois, c'est le combat entre les vices et les vertus. C'est ce qu'on appelle des psychomachies, c'est-à-dire des balades, des batailles, c'est-à-dire spirituelles, de ce qui gouverne les esprits. Et donc, vous allez à chaque fois avoir la dispute, et une fois que le manuscrit n'est plus dans le domaine sacré, ben, il se libère de cette espèce d'injonction de beauté, de merveilleux, de dimension supérieure, et de prouesse, y compris de densité. Et on va vers un dessin qui est beaucoup plus vivant. Et qui est extrêmement libre, qui n'a pas de code, il n'y a pas de règle, si ce n'est celle d'être vivant comme cela. Et voilà toujours la psychomachie. Alors là, Vous avez des batailles remarquables, des figures incroyables, avec souvent les vertus sont armées, évidemment, et le vice a quelque chose d'un peu diabolique, hein, avec des mains un peu crochues, rouges, des cheveux de feu, etc. Il s'attaque aux vertus qui sont représentées ici. Et là, vous avez des tortures, vous avez des choses comme ça. Là, on est difficile de caractériser aussi ces styles, mais on est toujours dans l'art carolingien. Là encore, une psychomachie, toujours. Hein, donc, avec... Et on voit aussi, quand on parle de Renaissance de cette période-là, c'est que la religion, c'est bien, il y a à peu près tout, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a la philosophie grecque, latine, et bien aussi, elle a d'autres vertus. C'est qu'on va s'intéresser aussi, Platon, Aristote, les auteurs latins, les auteurs grecs, les fabulistes, etc. Vous allez avoir aussi un intérêt. Donc, longtemps, on a cru qu'il n'y avait que les manuscrits chrétiens, même s'ils sont dans le cadre chrétien. Souvent, il faut montrer la compatibilité avec le christianisme et la philosophie, on va dire humaniste, en gros, des gréco-romains. Et c'est un petit peu le domaine de ces psychomachies. Alors, je voulais aussi vous montrer quand même d'autres évangéliaires par la suite qui sont très connus. Par exemple, celui de l'abbesse Utin. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de femmes qui ont eu des monastères, soit qui étaient démoniales, qui ont été abbesses de monastères comme Utin. Alors, on est en Germanie, c'est-à-dire la frontière Alsace-Allemagne. Alors, parfois, elles ont développé des philosophies ou des théologies qui ont été condamnées par les papes ou qui étaient rivales. On est ici avec, on sait avec Héloïse, hein, que vous avez, qui était aussi très libre, Héloïse, une philosophe, une femme créatrice très vive et extraordinaire. Hein. Donc, vous avez aussi des femmes théologiennes, mais qui ont développé des théologies qui parfois étaient considérées comme hérétiques. Donc les monastères ont été fermés, ils étaient sous domination des évêques, des papes, etc. Mais dans le même temps, ont pu développer quand même parfois des œuvres d'art. Alors vraisemblablement, en plus, les évangéliaires, quand c'était une abbesse, c'était fait vraisemblablement par des femmes illustratrices et enlumineuses. Donc des échanges, et là on voit encore, alors là on trouve du merveilleux, on se rapproche un peu de Bouvecov-Kels. Mais on est toujours dans cette espèce de culture qui finit par s'homogénéiser. Alors voilà, toujours des extraits. C'est des extraits. Imaginez la beauté extraordinaire de ces manuscrits. Alors celui-ci, par exemple, est très intéressant parce que on voit bien la combinaison, l'intégration de figures humaines, d'architecture, d'entrelacs, de bleu, d'or. Alors le bleu et l'or étant les deux vecteurs les plus reconnus pour suggérer le divin. L'or, parce qu'il y a la métaphore de l'or qui devient lumière, la terre qui devient lumière, le minerai qui devient précieux, etc. Et le bleu, parce que c'est le ciel, évidemment. Alors, je vais un peu plus vite. Sacramentaire de l'empereur Henri II, toujours en l'an 1000, où là, vous avez quelque chose où très clairement, le style, c'est de fusionner la représentation, la figure, les anecdotes, une représentation humaine assez aboutie cette fois-ci, hein, avec modelé, presque des portraits, des émotions. Et toujours une sorte d'aide ou de preuve que l'écriture et les entrelacs peuvent être aussi magnifiques comme on le voit ici. Et vous avez, alors, on n'arrête pas d'être surpris, parce que vous avez aussi Henri de Xe siècle, toujours carolingien. C'est que là aussi, vous avez le livre de Péricope, empereur Henri II, Xe siècle, donc on n'est pas très loin. Et là, on est dans une combinaison qui évoque et qui évoque ce qu'on se trouvera plus tard dans ce qu'on appelle les primitifs italiens ou les primitifs flamands, c'est l'utilisation de figures et de narrations, de scènes anecdotiques, on va dire, mais qui sont sanctifiées cette fois-ci, non pas par l'entrelacs, mais par l'or. Le fond doré, c'est ce qui dit que cette scène qui, par plein d'aspects, est une scène presque triviale, on voit des gens qui s'agitent, qui bougent, on voit quelqu'un qui est mis au tombeau, etc. Mais comme c'est sur un fond doré, eh bien, on est dans quelque chose ici de divin. Et puis, en même temps, le bleu, un bleu magnifique, avec des mots sublimes, qui évoquent ici la double nature de Jésus, qui est à la fois sur terre et dans les cieux. Donc, il est dans le ciel que l'on connaît, mais il est aussi divin. Donc là, ce livre est absolument sublime. Et juste pour montrer l'écriture aussi, hein, d'une lisibilité extraordinaire. C'est-à-dire que la graphie de ce qu'on appelle les carolines, hein, avant, et là, les scènes, et qui sont tout à fait établies. Hein, parce que ces scènes-là, c'est du Xe siècle. Donc, si vous voulez, l'iconographie des évangiles Dans les évangiles précédents, c'était pas trop ça qui précédait, c'était surtout l'écriture, c'était le merveilleux, etc. Tandis que là, on trouve tout d'un coup une vertu à raconter l'histoire de Jésus, raconter l'histoire de la Passion, avec comme des anecdotes qui seront aussi utilisées, alors ça de plus en plus cette fois-ci par les prêtres pour aller vers la population. Parce que ça parle. Ça, c'est une histoire qui parle. Et donc, vous avez tout d'un coup, on voit apparaître de plus en plus les figures de la Passion ou des histoires des saints. Au début, c'est surtout l'histoire de Jésus, Jésus parmi les docteurs, l'apparition de Jésus à ses disciples une fois qu'il est ressuscité avec la croix, etc. Vous avez les anges sur le tombeau, vous avez l'ascension, vous avez ici la mise au tombeau, vous avez ici Pierre qui reçoit les clés. Donc, plein de choses qui, tout d'un coup, deviennent des éléments aussi narratifs, prosélytes, qui vont être beaucoup plus facilement utilisés. Alors, je vais pas m'arrêter sur tous. Si vous avez l'adoration des mages, etc., vous voyez que c'est absolument extraordinaire, y compris de qualité de préservation. Et ça, c'est le. Pour vous montrer quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est la couverture. C'est que là, avec ici, je reviendrai tout à l'heure, une plaque en ivoire sculptée qui est. Incroyable. Alors, on est quand même dans un art au Xe siècle qui est un art de prince. Bon, j'ai un peu plus vite sur les péricopes parce que sinon, on n'aura pas le temps. Alors, ça, je vais aller un peu plus vite aussi. Alors, parfois, certains manuscrits sont inachevés. Alors, on voit aussi comment ils sont réalisés. Hein, le dessin préalable, qui n'est pas toujours fait par la même personne. Le dessin, la couleur, l'or, ils peuvent être plusieurs. Hein, on a vu qu'il y avait même des styles parfois différents sur un manuscrit. Je voulais vous montrer aussi quand même. Manuscrit anglo-saxon avec l'architecture. Alors, l'architecture, c'est toujours important parce que l'église, l'ecclésia est assemblée et en même temps bâtiment. Si les moines, d'abord, ils ont des monastères, mais s'ils vont aussi voir les princes aussi, c'est pour pouvoir aussi étendre et tout d'un coup structurer l'église catholique autour de lieux, de bâtiments dans lesquels ils peuvent aller justement vers la population, donc l'assembler, la rassembler. Il faut quelque chose de solide. Et presque toujours, les personnages chrétiens sont associés aux piliers des églises, de façon très claire, y compris la tête, le chapiteau. Chapiteau, c'est de caput, qui veut dire la tête. Donc, si vous voulez, la tête et le chapiteau sont toujours très, très liés, de façon très claire. Ils ont une conscience parfaite de ce qu'ils font. Alors, je vais maintenant feuilleter, sans m'arrêter partout, le bénédictionnal de Ethelwood, toujours, 9e siècle, sublime. Alors là, un baptême, l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Alors là, une combinaison magnifique de la tradition, l'entrelacs et de la figuration. Toujours nativité adoration. Alors anglo-saxon, c'est-à-dire que 9e siècle, les Normands, les Vikings, etc., tout ça vont se christianiser, il y a quelque chose qui va se poser. Donc vous avez aussi une diffusion de plus en plus grande de ces manuscrits. On va dire les moines qui étaient un peu les gardiens du temple au sens strict, hein, de l'héritage, eh bien, finalement, font école. Hein, et donc, vous avez une importance de plus en plus grande et une diffusion magnifique. Alors, Ethelwood, alors vous pouvez les retrouver, hein, ils sont sur mon site si vous les retrouvez, et si vous voulez l'enregistrement, vous l'aurez aussi. J'ai tout mis en ligne. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ces manuscrits prodigieux, la tradition de l'entrelacs. Eh bien, en fait, on peut la rattacher aussi à la tradition du labyrinthe. Labyrinthe, c'était un vieux principe de l'Antiquité, qu'on a retrouvé y compris dans les labyrinthes de Thésée, etc., le mythe de Thésée, mais que les chrétiens ont vite utilisé comme une manière aussi de densifier un espace. Vous avez un espace simple, mais qui devient merveilleux parce que vous y perdez. Eh bien, c'est un peu comme cette idée de Jésus ou Dieu. Il est humain, etc., mais c'est plus complexe que vous croyez. Vous êtes petit. Devant cette réalité, eh bien, vous êtes petit dans un labyrinthe, le labyrinthe peut vous perdre. Il peut vous perdre un temps pour retrouver. Si vous avez le fil, vous pouvez aller jusqu'au bout et sortir. Ben, c'est un peu comme la religion qui, dans un monde où vous pouvez, et à la fois, c'est plus grand que vous, puis en même temps, ça peut vous quitter. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous ne respectez pas la règle, vous allez vous perdre dans quelque chose qui vous dépasse. Et c'est donc les labyrinthes, on les trouve dans beaucoup d'églises, et cette idée de l'entrelacs, elle n'est pas loin du labyrinthe. Alors, je passe un peu pour aller plus vite. Les traditions, alors, des entrelacs, on va les retrouver aussi dans les pierres runiques scandinaves. C'est-à-dire que quand on regarde le style scandinave et viking, on a quelque chose qui est proche de ces entrelacs. J'avais un peu plus vite, y compris dans les boucles et les stèles et l'orfèvrerie, comme on le voit ici. Ça, c'est les traditions nordiques. Je vais continuer un peu. Les châsses comme je dis, qui étaient des chasses qui relevaient des reliques, étaient extrêmement précieuses. Mais en fait, les manuscrits sont un peu considérés comme des chasses. Et voilà d'ailleurs hein, quelques-unes des premières pages de manuscrits carolingiens. Et la couverture du Book of Kells a été perdue. On a retrouvé les pages, mais apparemment, la couverture a été volée et est devenue un objet à part. Et là, on voit dans ces. Alors là, c'est notable aussi que vous avez une tradition qui, elle, au niveau de la sculpture, c'est-à-dire la sculpture, vient vraisemblablement de Rome et de l'art byzantin. Hein, puisque là, on a, dans un manuscrit carolingien, etc., on a ici des sculptures qui évoquent plutôt eh bien, les traditions romaines, du bas-relief, etc. Sans doute héritées justement de Constantin, etc. Alors, je voulais terminer quand même avec d'autres religions qui ont travaillé l'écriture, justement, comme le Coran, justement, où alors là, on est très proche de cette logique-là. Je vais aller un peu plus vite. Les Corans, qui sont aussi des manuscrits enluminés, qui sont très proches, avec des plages tapis, avec une écriture et des entrelacs et des motifs qui se mêlent, parce que c'est l'écriture divine. Donc, elle est sacrée, donc elle est honorable et complexe, avec, comme on voit ici, toujours l'écriture elle-même devenant quelque chose, ben, l'arabesque. Et regardez ici, des entrelacs. Alors, il faut savoir aussi que les Visigoths, qui venaient quand même de l'Est, sont arrivés jusqu'en Espagne, et qu'en Espagne sont venus les Arabes et les musulmans. Et donc, vous avez aussi, y compris dans la tradition musulmane, notamment d'Espagne, un mélange de cultures d'invasion, un peu nordique, visigoth, ils venaient un peu des Gaules, ils étaient passés par une partie, on va dire, un peu non méditerranéenne, et ils arrivent aussi en Espagne. Et en Espagne, comme les musulmans, ont chassé certains chrétiens qui sont remontés sans doute aussi jusque en Irlande. Donc, voilà. Alors, vous avez aussi la tradition hébreu, juive, qui fait que vous avez malgré tout dans certaines Bibles hébraïques, eh bien, vous avez aussi des figurations. C'est-à-dire que là, c'est le contraire. C'est que vous avez en fait l'interdiction de représenter, etc., dans le Coran et dans la tradition juive, mais le poids de la culture est tel que vous avez dans certaines évangiles, pas des évangiles, dans des Pentateuques ou des Bibles juives, eh bien, vous avez des figurations. Des figurations, et là encore, cette idée que finalement, dans toutes ces religions-là, l'utilisation de l'écriture est associée au divin, mais alors, de la même manière, certains chrétiens catholiques vont aller vers une abstraction, vont s'écarter de la figuration, mais vous allez avoir aussi des musulmans ou des juifs qui vont être tentés par la figuration et qui vont l'intégrer dans leurs manuscrits. Voilà, et on le voit encore ici, Haggadah, Pentateuque, etc. Et y compris dans la tradition hébreu, alors il y a quelque chose qui est magnifique, c'est quasiment des calligrammes. Hein. Vous avez ici la représentation, elle est presque licite, puisque la figure est faite d'images, elle est faite de textes. Et vous avez donc cette idée assez drôle où le jeu sur l'écriture hein, forme une figure, mais comme c'est construit par le texte, ça passe. Et bien je termine avec ça. Alors. J'arrête l'enregistrement.